d'aujourd'hui à Washington.
Bonsoir, le monde aujourd'hui, édition de 17h30, temps universel du lundi 4 novembre 2019. Abdourahmane Dia à la présentation. Voici les titres. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta décrète 3 jours de deuil national après la mort de plus de 50 soldats au Mali. L'émotion est vive.
On ne peut pas rester comme ça. Chaque jour qu'on vienne attaquer nos camps, tire nos militaires des dizaines, voire des centaines. C'est que si il y a toujours l'information qui a passé, il n'y a pas de renfort qui arrive à temps, c'est très étonnant.
La ministre française des Armées en visite au Tchad, au Burkina et au Mali a prôné la patience dans la guerre contre les djihadistes dans le Sahel. Affrontement à Conakry lors de l'inhumation des victimes des récentes manifestations de l'opposition. 4 marins d'un cargo pétrolier enlevé au large de Lomé. Il s'agit du 2e enlèvement dans le golfe de Guinée en 2 jours. Et puis les forces de sécurité irakiennes tirent sur des manifestants aux abords du siège de la télévision d'État à Bagdad. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a décrété un deuil national de 3 jours à partir de ce lundi. C'est à l'issue de l'attaque revendiquée par le groupe État islamique contre un camp du Nord, la plus meurtrière depuis des années par l'armée malienne. Les précisions avec Irénée Hermanoumbo.
Le deuil national de 3 jours a commencé ce lundi selon le communiqué de la présidence malienne. 49 soldats ont été tués vendredi dans l'attaque du camp d'Indelimane près du Niger dans le nord-est du pays. Un mois plus tôt, 40 soldats ont trouvé la mort dans une double attaque près de la frontière avec le Burkina Faso. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque samedi dans un communiqué signé de sa province Afrique de l'Ouest ainsi que la pose d'une bombe artisanale dans la même zone qui a tué un soldat français de l'opération Barkhane. Le revers subi par l'armée malienne renforce les interrogations sur sa capacité à faire face aux djihadistes et aux autres violences auxquelles le Mali est le théâtre depuis 2012 et qui ont fait des milliers de morts.
La ministre française des Armées a entamé par N'Djamena au Tchad une visite qui la conduira au Burkina Faso et au Mali. Florence Parly a appelé à inscrire dans la durée la lutte contre les djihadistes dans le Sahel. Le point avec Michel Joseph.
Nous mettrons du temps à vaincre ces groupes qui prospèrent sur les difficultés sociales et économiques des pays sahéliens, a déclaré la ministre française au centre opérationnel interarmé de Barkhane, N'Djamena. Cette opération, lancée par la France en août 2014, est forte de 4 500 militaires, appuie les pays sahéliens dans la lutte contre les groupes terroristes. Barkhane s'adapte en permanence et il faudra du temps pour construire cette résilience des forces locales, a souligné Florence Parly, qui a réitéré l'engagement de la France à soutenir les pays du Sahel. La ministre française des Armées a souligné que son voyage intervient dans un contexte sécuritaire extrêmement difficile. Au moins 53 soldats et un civil malien ont été tués vendredi et samedi dans des attaques revendiquées par le groupe État islamique dans le Grand Sahara. Le député maire de Dibo, dans le nord du Burkina, et 3 autres personnes ont été tuées dimanche par des inconnus. Un soldat français a péri samedi dans le nord du Mali, dans l'explosion d'une bombe artisanale.
Des manifestants ont été blessés par balle à Conakry lors de heurts qui ont éclaté avec les forces de l'ordre. C'était à l'occasion d'une marche accompagnant les cercueils de Guinéens tués lors de récentes manifestations. Le docteur Seni Fofana, praticien dans une clinique proche du lieu des incidents, a affirmé que sa structure a reçu 7 blessés, dont 4 touchés par balle. Des centaines de Guinéens défilaient au cri de justice pour les morts et Alpha assassin derrière les cercueils de 11 manifestants tués lors de protestations contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé. 4 marins d'un cargo pétrolier ont été enlevés ce lundi au large de la capitale togolaise Lomé lors d'une attaque menée par des pirates présumés. C'est le 2e incident de ce genre dans la région en 2 jours. Le point à Lomé avec notre correspondante Kailosson.
Le navire battant pavillon grec a été attaqué à environ 18 km du port de Lomé par des individus armés, informe la préfecture maritime dans un communiqué. Dans sa tentative, la garde armée embarquée à bord de ce navire n'a pas pu repousser ces individus armés. Ces derniers auraient fui à bord d'une embarcation en direction de la frontière maritime ouest avec 4 otages, poursuit le communiqué. Ces otages sont 2 Philippins, un Grec et un Géorgien. Un membre de la garde armée est blessé par balle, fait savoir la préfecture maritime. Le texte précise que la Marine nationale a immédiatement dépêché un patrouilleur et une vedette rapide sur zone à la recherche des individus armés et des personnes kidnappées. Le gouvernement togolais rassure qu'il met tout en œuvre pour retrouver les otages ainsi que les auteurs de cette attaque. Aussi, une enquête est ouverte par la gendarmerie maritime sous la direction du parquet de Lomé. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
300 attaques ayant fait 6 morts et 70 blessés ont été recensées en 11 mois contre des agents de la riposte anti-Ebola dans 3 provinces de l'Est de la RDC. C'est ce qu'ont annoncé ce lundi les autorités sanitaires. Dans la nuit de samedi à dimanche, un animateur d'une radio locale impliqué dans la lutte contre l'épidémie a été assassiné en Ituri. L'armée égyptienne a annoncé que 83 djihadistes présumés ont été tués au cours d'une opération militaire dans le nord Sinaï où sévit une insurrection affiliée au groupe État islamique. Dans un communiqué, l'armée a indiqué que des armes et des munitions ont également été retrouvées dans l'opération.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les forces irakiennes ont tiré sur des manifestants à Bagdad après une nuit de violence près du consulat iranien à Kerbala. C'est dans le sud de l'Irak. La désobéissance civile paralyse les routes, les infrastructures pétrolières et les administrations. Eric Manelakiza.
Pour la première fois depuis la reprise le 24 octobre de la contestation, les forces de sécurité ont tiré à balles réelles sur des manifestants qui avançaient vers le siège de la télévision d'État à Bagdad. Dans la nuit, de nouveau 4 manifestants ont été tués alors qu'ils tentaient d'incendier la représentation diplomatique de l'Iran à Kerbala. La colère des protestataires qui réclament la chute du régime se concentre sur l'Iran qui soutient le régime. Dans l'autre ville sainte chiite, Najaf, les manifestants ont symboliquement effacé le nom de la rue Imam Khomeini pour la renommée rue de la Révolution d'Octobre. À Bagdad, dans plusieurs villes du sud, la plupart des écoles publiques sont fermées. Des cortèges de manifestants ont accroché d'immenses banderoles fermées au nom du peuple sur des dizaines de bâtiments publics et ont coupé des ponts et des routes. Les promesses d'élections anticipées, de réformes et du système des embauches et des retraites n'ont pas apaisé la colère des Irakiens. Depuis le 1er octobre, au moins 270 personnes ont été tuées, principalement des manifestants.
Au Liban, les manifestants sont restés mobilisés ce lundi également. Ils ont bloqué plusieurs axes de circulation au lendemain d'une nouvelle journée de manifestations massives contre la classe politique. Le mouvement de protestation entre donc dans sa 3e semaine dans un pays en proie à une grave crise économique. Le soulèvement a entraîné la démission du premier ministre Saad Hariri et de son gouvernement. L'Iran indique avoir nettement accéléré en 2 mois son rythme de production d'uranium faiblement enrichi. Le pays produit désormais 5 kilos d'uranium enrichi par jour, selon Ali Akbar Salehi, vice-président de la République islamique et chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. Ce chiffre représente plus de 10 fois le niveau de production de début septembre. Monsieur Salehi a tenu ses propos lors d'une visite d'une installation nucléaire. Cette nouvelle annonce survient alors que l'Iran célèbre ce lundi le 40e anniversaire de la prise d'otage à l'ambassade américaine de Téhéran. 41 migrants ont été découverts cachés dans un camion frigorifique intercepté sur une autoroute du nord de la Grèce. Ils sont tous en vie, mais 7 d'entre eux présentaient des problèmes respiratoires et ont été transportés à l'hôpital. Les migrants transportés dans le camion étaient des jeunes hommes en majorité de nationalité afghane, selon la police. Cette découverte rappelle celle tragique à la fin d'octobre de 39 corps de migrants vietnamiens dans un camion frigorifique à l'est de Londres. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco présentée ce soir par Nani Talani.
La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, se prépare pour la saison sèche qui dure de la mi-novembre à mars. Pour une bonne récolte l'année prochaine, les agriculteurs espèrent davantage de pluie mélangée à des périodes ensoleillées avant l'arrivée des vents secs de l'Harmattan en décembre. Les fortes pluies enregistrées la semaine dernière dans la plupart des régions productrices de cacao ont été accompagnées de jours très ensoleillés, faisant espérer une meilleure qualité des fèves. Les autorités soudanaises conviennent d'une feuille de route avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Banque africaine de développement pour des réformes structurelles. Pour terminer cette minute éco, l'Afrique risque de connaître d'ici à 2050 une baisse de 20% de ses rendements agricoles avec la dégradation des sols et la désertification. Dans le même temps, sa population pourrait doubler. Les ministres africains de l'agriculture réunis jusqu'à mardi au Maroc vont tenter de voir comment produire suffisamment pour nourrir une Afrique qui subit les effets du réchauffement climatique alors que le continent émet beaucoup moins de gaz à effet de serre, à peine 4% du volume mondial.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
On connaît 15 des 16 qualifiés pour la phase de groupe en Coupe CAF.
Les favoris ont tenu leur rang à l'image de la Renaissance sportive de Berkane, vainqueur du Fossa Junior de Madagascar 5-0 après avoir perdu 2-0 à l'aller à Tana, d'où la joie de l'attaquant burkinabé de Berkane, auteur d'un doublé, Alain Traoré.
On est très très content. On avait à cœur de faire un bon match ici. Je pense que c'est chose faite. Voilà, on finit 5-0. Voilà, c'est le score qu'on voulait faire. On a réussi. C'est vraiment très très bien.
Alain Traoré, attaquant de Berkane, au micro d'Amine Birouk, notre correspondant à Casablanca. Pour la suite, le Oroya de Guinée, déjà vainqueur 4-2 à domicile à l'aller, l'a confirmé en s'imposant 1-0 au Kenya face à Bandari. Ça passe aussi pour le DC Mutoma Pembe face à un autre adversaire kenya, Gor Mahia. Qualification aussi pour les Égyptiens d'El Masri et de Pyramide, des Libyens d'El Nasr et des Nigériens d'Enimba.
Djoliba de Bamako jouera aussi la phase de groupe.
Le club malien est sorti double vainqueur des Tchadiens d'Elect Sport, une grande première aussi pour les Ivoiriens du FC San Pedro qui ont sorti les Ghanéens d'Asante Kotoko, tout comme les Mauritaniens du FC Noadibou, ainsi que les Sud-Africains de Bitvest et les Zambiens de Zanaco. En revanche, les Togolais de l'ASK ont été éliminés par les Nigériens des Nungu Rangers.
Le dernier qualifié sera connu demain.
Ça se joue entre les Béninois d'Essaïe et les Sénégalais de Génération Foot. Le club de Cotonou s'est imposé 1-0 à l'aller au Sénégal. Pas de quoi emballer son entraîneur Bio Richard.
On a en face un adversaire difficile à jouer parce qu'il s'agit de l'équipe championne du Sénégal. Il va falloir que nous jouions en comptant sur nos valeurs et mettre en place une stratégie qui nous permettra de contenir la velléité de l'adversaire.
Bio Richard, coach de l'Esaïe, au micro d'Élisée Mpatine, notre correspondant au Bénin.
Cyclisme, Manuel Antonio Dario a remporté le Tour du Faso.
C'est à l'issue de la 10e et dernière étape courue hier entre Kombisiri et Ouagadougou et remportée par le Burkinabé Bachirou Nikiema. Nous retrouvons Kader Traoré, notre correspondant à Ouagadougou.
La victoire finale après 10 étapes de course est revenue à l'Angolais Manuel Antonio Dario. Il est suivi de son compatriote Bruno Arroyo à 54 secondes. Le podium est complété par le Néerlandais Dorin Jonas à 1 minute 24 secondes. Pour sa première participation au Tour du Faso, l'Angola frappe un grand coup. Son coach Carlos César avoue que le maillot jaune n'était pas forcément l'ambition du départ.
Notre objectif, les trois premières, le classement pour équipe. La première étape, le contre-le-monde, notre maillot jaune. Nous avons vu que les grandes possibilités de notre attaquer le maillot jaune.
Le premier Burkinabé pointe à la cinquième place. Il s'agit de Bachirou Nikiema. C'est d'ailleurs lui qui a gagné la 10e et dernière étape courue entre Kombisiri et Ouagadougou sur 100,6 km. Tout compte fait, le président du Faso, Rokma Christian Kabore, s'est dit satisfait de l'organisation de cette compétition.
Remercier l'ensemble des pays qui ont participé à cette édition, malgré un contexte sécuritaire difficile.
Le marquant de cette édition, c'est la forte allure imposée par la caravane. La vitesse moyenne horaire a parfois atteint les 48 km, une première sur le Tour du Faso depuis sa création. Kader Traoré, sur les routes du Tour du Faso, au VOA Afrique.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. 9 otages philippins, tous membres de l'équipage d'un bateau, ont été enlevés au large du port de Cotonou. Hier encore, 4 personnes ont été enlevées près du port de Lomé, au Togo. Ces incidents prouvent la montée de la piraterie dans le golfe de Guinée. Irénée Hermanoumbo a joint à Accra le colonel Abdourahmane Dien et le chef de division, chef de la division sécurité maritime de la CEDEAO.
Les bateaux à Cotonou et à Lomé restent très très longtemps parfois dans les zones de bouillage, jusqu'à un mois parfois. Et donc ces criminels difficiles à identifier, on a le temps de les observer et donc de procéder à l'abordage et d'enlever les équipages, certainement pour les tenir en otage. Et jusqu'à présent, on n'est pas parvenu donc à retrouver ceux qui ont été enlevés. Dans le cas du Bénin de Cotonou, donc l'opération s'est totalement déroulée avant que l'alerte soit donnée. Dans le cas de Lomé, la marine est intervenue mais n'a pas empêché justement donc l'opération d'enlèvement de se faire.
Colonel, qu'est-ce qui favorise ces enlèvements?
Vous savez, la piraterie c'est quelque chose de très ancien. C'est de la criminalité en mer. La criminalité en mer existe. C'est la même chose que la criminalité en mer. Sur le continent. Et donc, c'est dû à un certain nombre d'éléments. Donc, l'instabilité dans certains pays que je ne nommerai pas, l'insécurité réelle qu'on retrouve sur la terre qui va impacter justement donc, le domaine maritime, l'appât du gain, et finalement, on rencontre une réelle forme de criminalité dans cette zone.
La région serait-elle en train de devenir une autre Somalie?
Non. La différence entre la Somalie et notre région, c'est que la Somalie, de manière générale, on a vu justement donc des États qui sont effondrés. Tel n'est pas le cas dans notre région. Ici, il n'y a aucun État failli. Il y a de l'insécurité, mais les États sont encore organisés. La souveraineté est réelle. Maintenant, le problème en mer, c'est que les espaces maritimes sont vastes et il faut justement les patrouiller, les surveiller et être présent en permanence.
Mais il y a des patrouilles qui se font. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné exactement?
Vous savez, comme je vous disais, tous les criminels du monde fonctionnent sur la base d'observation des systèmes mis en place. Et donc, il y a eu des failles très similaires. Ces attaques interviennent la nuit. Nous avons un problème de surveillance technique qu'il faut améliorer, ce qu'on appelle les MDA, Maritime Domain Awareness, qu'il faut améliorer. Ensuite, nous allons travailler sur nos capacités de réponse rapide. C'est un gap qu'on a pu, dans les deux cas, observer. Et peut-être justement, donc, demander à l'industrie maritime de manière générale de se sentir beaucoup plus impliquée dans ce que nous faisons. Parce que finalement, il faut la confiance de tout le monde. Parce que si on met la sécurité et la sûreté en main, c'est pour que l'industrie maritime puisse faire son business.
Voilà, c'était le colonel Abdourahmane Dien, chef de la division de la sécurité maritime de la CEDEAO.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
3 jours de deuil national au Mali après un week-end meurtrier pour l'armée malienne. Le groupe de l'État islamique a revendiqué la tuerie de plus de 50 soldats dans l'attaque qui a visé vendredi le camp militaire d'Indelimane au nord-est du pays, aux environs de Menaka, près de la frontière avec le Niger. À Bamako, certains Maliens ont toujours du mal à comprendre cette recrudescence des attaques terroristes avec toujours des dégâts énormes. Le reportage d'un de nos correspondants à Bamako, Lamissa Sangaré.
Selon des sources locales, les assaillants ont soigneusement préparé cette attaque durant plusieurs jours en infiltrant la population. Les jours de l'attaque, selon toujours ces mêmes témoins, ils auraient tué le chauffeur d'un camion de ravitaillement militaire pour ensuite installer au volant un de leurs et remplir les véhicules d'explosifs. C'est ce qui leur aurait permis de faire un dégât énorme. Quelques heures après l'attaque, le ministre de la Communication a fait le bilan. Yaya Sangaré.
Des hommes lourdement armés qui ont attaqué le camp. Après les attaques, ils se sont dirigés sur d'autres frontières des pays voisins. Les renforts qui étaient partis ont dénombré 54 corps, dont un civil. 10 rescapés. On considère que les 53 sont des soldats maliens jusqu'à preuve du contraire. Il y a beaucoup de dégâts matériels, des véhicules également qui ont été emportés.
Le mode opératoire des terroristes et les bilans de cette énième attaque a indigné Dr Abdoul Kan Diallo. Il est membre d'une plateforme de la société civile basée à Mopti.
On ne peut pas rester comme ça. Chaque jour, qu'on vienne attaquer nos camps, tuer nos militaires des dizaines, voire des centaines. C'est que si il y a toujours l'information qui a passé, il n'y a pas de renfort qui arrive à temps. C'est très étonnant.
Pour faire face à de telles attaques terroristes, il faut renforcer en premier lieu les renseignements militaires, a laissé entendre Fatoumata Togola, président d'un parti politique.
Il faut arrêter un renforcement des services de renseignement, le renseignement militaire et la sécurité d'État. Ces deux-là doivent collaborer très concrètement et leurs activités doivent être vraiment considérables pour toutes les familles du territoire malien, en particulier la zone nord du Mali.
L'heure de la grande mobilisation a sonné, au dire du docteur Abdoul Kan Diallo.
Vraiment, il est grand temps que les gens se mobilisent maintenant. Faut pas qu'on reste jusqu'à ce que l'essentiel soit détruit. Il est grand temps que les gens prennent conscience qu'on sauve les Mali. Regardons dans le monde entier, nulle part, ça ne se passe comme ça.
Il pense que la mauvaise volonté des signataires de l'accord d'Alger est pour quelque chose dans la persistance de l'insécurité au Mali.
Tant bien même qu'il faille revoir cet accord-là et essayer d'assurer l'intégrité de tous les territoires, d'assurer la sécurité du pays. Et maintenant, même s'il faut faire le fédéralisme, il faut le faire. Il n'y a aucun problème. Fédéralisme ou décentralisation poussée, ça peut aller, mais quand même pas en tuant les soldats comme ça.
Quant à Fatoumata Togola, président des partis au Mali, il croit que l'accord d'Alger est caduque, par conséquent, qu'il ne peut en rien aider à ramener la paix au Mali. Que la seule alternative serait la collaboration entre les services de renseignement de Barkhane, de l'AMINUSMA et des services de renseignement du Mali. Lamissa Sangaré pour VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Au Burkina également, c'est la consternation après l'assassinat hier matin du député maire de la ville de Djibo dans le Sahel. Il a été avec trois de ses proches tués lorsque leur véhicule est tombé dans une embuscade. Oumarou Diko représentait aussi sa région à l'Assemblée nationale. Pour une réaction, Bagassi Koura a joint maître Benewende Sankara, le premier vice-président du Parlement burkinabé.
C'est avec beaucoup d'émotion et de consternation que nous avons appris l'assassinat de l'honorable Diko Oumarou, qui est en même temps le maire de Diko avec ses compagnons d'infortune. Il faut se dire que l'Assemblée nationale a été durement éprouvée parce que nous avons enregistré beaucoup de décès, mais ici là, c'est un crime crapuleux qui n'épargne personne. Parce que s'agissant du terrorisme, nous l'avons toujours dit, c'est un système qui remet en cause les valeurs de la démocratie. Et quand on connaît l'engagement personnel du député Diko Oumarou, dans sa sérénité, à gérer donc sa commune, eh bien, c'est une perte immense qu'on ne pouvait pas du tout combler. Nous avons accueilli vraiment cette nouvelle comme une touche froide. Et j'avoue que pour le moment, on ne se retrouve pas du tout.
On dit que c'est un maire qui se préoccupait beaucoup de la situation dans sa commune. C'est pourquoi il ne restait pas du tout à Ouaga et régulièrement il retournait.
Tout à fait. Alors, c'est ce que je disais. Il était très accessible auprès de ses populations. Et je pense que aujourd'hui, là, c'est vraiment une perte pour le Burkina et en particulier pour la province du Soum.
Il faisait beaucoup de va-et-vient entre la capitale et le Sahel. Qu'est-ce qu'il vous disait chaque fois qu'il revenait?
Oui. Vous savez, la situation à Djibo est une situation connue. Il y a eu plusieurs attaques dans sa commune. Donc, chaque fois, il émettait des inquiétudes. Mais le pire est arrivé. Je crois que le vrai problème, ce n'est pas d'avoir alerté. Le vrai problème ici, c'est que nous enregistrons vraiment une perte. C'est arrivé de façon dramatique. Il faut le déplorer, il faut le condamner avec force. Mais maintenant, il faut effectivement que nous prenions tous conscience que effectivement, c'est un mal qui doit être combattu par tous les bords politiques.
C'était Maître Benvenuto Sankara, le premier vice-président du Parlement burkinabé.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
La Chambre des représentants ici aux États-Unis a donné son feu vert la semaine dernière pour officialiser l'enquête parlementaire pour la mise en accusation du président Donald Trump. Monsieur Trump devient le quatrième président américain à faire l'objet d'une telle démarche sur ses présumées pressions sur l'Ukraine pour qu'elle enquête sur un potentiel rival politique, Joe Biden, et son fils Hunter. Sur ce que signifie ce vote et sur la suite, le reportage de Jim Malone avec le récit de Lionel Gaïma.
Ceux qui sont pour, dites oui s'il vous plaît. Ceux qui sont contre, dites non.
Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, à un moment historique du Congrès américain jeudi dernier.
C'est quelque chose de très solennel et un moment de prière.
Madame Pelosi et beaucoup de démocrates pensent que le président Trump a abusé de son pouvoir. Il aurait fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle ouvre une enquête sur l'un de ses potentiels rivaux politiques, l'ancien vice-président Joe Biden. Nancy Pelosi, présidente de la Chambre.
Nous jurons de protéger et défendre la Constitution et c'est ce que nous ne pouvons pas ignorer et nous n'allons pas l'ignorer lorsque le comportement du président indique que cette enquête est nécessaire.
Les républicains de la Chambre sont tous unis contre cette procédure. Kevin McCarthy, leader de la minorité républicaine de la Chambre.
Les démocrates tentent de destituer le président parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir le battre aux urnes. Ce ne sont pas mes propos. Ce sont ceux de mes collègues démocrates qui ont déjà essayé trois fois différentes procédures de destitution.
Sur Twitter, le président Trump a qualifié ce vote de chasse aux sorcières et promet de survivre à tout effort de le démettre de ses fonctions.
J'ai eu la chasse aux sorcières de Mueller, la chasse aux sorcières sous l'ingérence russe. J'ai eu la chasse aux sorcières chaque semaine. Je dis, quelle est la chasse aux sorcières du moment? Ils ne peuvent pas nous battre aux urnes. Alors ils veulent essayer de nous battre avec une vieille méthode, ce qui n'est pas très gentil. Ils forment un groupe de gens méchants.
Ce dernier vote à la Chambre porte le processus de mise en accusation à une nouvelle étape, d'après Julie Pace de l'agence Associated Press.
Il s'agit des règles qui vont régir ce qui va se passer par la suite en termes de témoignages publics sur ce qui s'est passé à huis clos.
Ce vote ouvre un nouveau chapitre dans l'enquête en vue de la mise en accusation, d'après John Hudak du Brookings Institute.
En partie, c'est pour faire passer le processus à la prochaine étape qui sera plus publique, mais va obliger également les républicains à se battre bec et ongles pour présenter des arguments de procédure contre cette enquête.
Et cela pourrait prendre beaucoup de temps, estime l'analyste John Fortier du Centre des politiques bipartisanes.
In the House of Representatives?
À la Chambre des représentants, cela prendra probablement quelques mois. Nous sommes seulement au début du processus aujourd'hui. S'il y a un procès au Sénat, et le leader de la majorité du Sénat a déclaré qu'il y en aurait un, s'il y a mise en accusation, et cela prendra probablement encore un mois ou deux. Cela pourrait donc durer un bon bout de temps l'année prochaine.
Les audiences publiques sur l'enquête parlementaire vont commencer au plus tard ce mois-ci. Un vote à la Chambre pour la mise en accusation conduira à un procès au Sénat où les deux tiers des sénateurs vont décider s'il faut ou non révoquer le président.
Voilà, merci à Lionel Gaïma qui a mis en onde cette édition, à la console Nick Ivanov, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
VOA Afrique, les infos.